France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode sur l'œuvre de Spinoza qui nous occupe cette semaine. Que sont les autres pour Spinoza? Que veut dire sa phrase « À l'homme, rien de plus utile que l'homme ». D'abord, il faut bien en convenir, et je demanderai à mes invités de préciser ce point, les femmes ne comptent pas pour beaucoup aux yeux de Spinoza. Nulle correspondance avec une femme, nul octroi de droits politiques égaux aux créatures du deuxième sexe. Sexuellement, on a des raisons de penser que c'était elle qui attirait Spinoza, mais sur l'amour, il semble surtout avoir des propos inquiets quant à de possibles rivaux. Plus généralement, Spinoza affirme que l'autre, l'autre homme, peut accroître pour chacun sa propre puissance, qu'une concorde, comme il dit, est souhaitable et possible. Mais quid de la discorde et de sa résolution ? Politiquement, la liberté d'expression qu'il désire de toutes ses forces est cruciale pour créer une république digne de ce nom et il affirme qu'il promeut là la démocratie. Mais il précise bien que la puissance étatique exposée aux critiques, aux dires les plus divers et libres, établit cependant les normes en matière d'actes, désobéissance voire révolution ne sont pas du tout du goût de Spinoza. Il y a donc beaucoup de points à analyser ce matin à propos de la conception d'autrui qui était celle de Spinoza. Bonjour Chantal Jacquet.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de Spinoza, auteur sur lequel nous vous avons déjà reçu dans des émissions antérieures, et votre clarté nous fait toujours beaucoup de bien. Je renvoie nos auditeurs aux pages de notre site pour découvrir le détail de vos travaux, et je précise que c'est bien vous aussi, Chantal Jacquet, qui, outre vos recherches sur Spinoza, réfléchissez à la situation de transclasse dans un certain dialogue avec la sociologie de Pierre Bourdieu. Et bonjour Bernard Potra.
Bonjour.
Vous étiez invité dans le premier épisode de cette série sur Spinoza. Vous voici à nouveau dans le quatrième. C'est tout naturel compte tenu de votre engagement personnel dans l'étude de ce philosophe. Vous avez tenu pendant plus de 20 ans, un séminaire sur la pensée de Spinoza à l'École normale supérieure et diriger l'édition de ses œuvres complètes en Pléiade en 2022. Ma première question est pour vous deux, bien sûr. Je la pose d'abord à Chantal Jacquet. Nous avons d'ailleurs eu des auditeurs pour nous poser pendant cette semaine la question. Les femmes, qui sont-elles pour Spinoza? Comment les considère-t-il?
Alors la question des femmes chez Spinoza soulève beaucoup de polémiques. Alors je voudrais d'abord signaler une distinction qui me paraît fondamentale entre l'approche éthique et l'approche politique chez Spinoza. Bien qu'on ne puisse pas les séparer, il faut noter, avant de considérer que Spinoza exclut définitivement les femmes, il faut noter que dans l'éthique, dans la partie 4, Spinoza admet, de façon assez conventionnelle, qu'il puisse y avoir un mariage entre hommes et femmes, mais que ce mariage puisse être fondé sur la liberté des conjoints, c'est-à-dire pas seulement sur la beauté ou l'union physique qui pourrait entraîner finalement des passions tristes, mais sur le développement de leur liberté. Donc il concède que les femmes sont capables de fortitude et de liberté, et que, donc il y a un salut éthique pour les femmes. En revanche, d'un point de vue politique, Spinoza, dans sa démocratie, et je précise bien qu'il s'agit d'un genre de démocratie, qu'on peut en concevoir d'autres, Spinoza considère que les femmes n'étant pas sui juris, mais alterius juris, donc ne relèvent pas de leur propre droit, mais du droit d'un autre, en l'occurrence leur mari, eh bien les hommes, les femmes ne peuvent pas participer à la vie politique, elles ne peuvent pas voter aux assemblées, elles sont exclues, et c'est là que le problème se pose avec le plus d'acuité. Alors, pour rendre justice à Spinoza, il pose la vraie question, alors on peut ne pas être satisfait de la réponse, mais il pose la vraie question, celle de savoir si c'est par nature ou par institution que les femmes sont inférieures, soumises et ne sont pas les égales des hommes. Donc effectivement, est-ce que c'est l'éducation ou est-ce que c'est quelque chose qui est par nature ? Et la conclusion, c'est que premièrement, c'est par nature, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est en raison de leur faiblesse constitutive, donc elles ont moins de force d'âme, elles ont aussi une faiblesse physique. Néanmoins, ce motif de l'infériorité, on pourrait dire intellectuelle et l'infériorité physique, ne suffit pas à exclure définitivement les femmes. Spinoza rajoute un autre motif qui, cette fois-ci, relève des hommes. C'est aussi parce que les hommes ne sont pas en mesure de voir dans les femmes leurs semblables et de leur reconnaître leurs qualités intellectuelles, leur force d'âme, mais ils sont mus par l'affect de lubricité, essentiellement. Hein, un peu comme Adam, qui au début convenait avec Ève, puis qui s'est mis à imiter les affects des animaux, et à ce moment-là, ça dégénère. Donc, en raison de leur lubricité, les hommes ne sont pas en mesure de considérer les femmes autrement que pour leur beauté, d'où résultent des compétitions entre hommes, des jalousies, et du même coup, l'impossibilité d'une concorde. Donc, il y a un double motif. Alors, là où on peut contester la pensée de Spinoza, c'est que il fait également état de l'expérience qui nous a montré que les hommes et les femmes n'ont pas été en mesure, dans l'histoire, de gouverner ensemble. Or, l'expérience de l'aveu même de Spinoza, quand il parle de l'expérience dans le traité de la réforme de l'entendement, eh bien, est admise comme vraie tant qu'elle n'a pas été contredite. Il suffit donc de penser que dans l'histoire, s'il y a des contre-exemples, postérieurement à Spinoza, où les hommes et les femmes gouvernent à parité, que cette référence à l'expérience tombe, et du même coup, on peut retourner Spinoza contre Spinoza, de cette façon-là, pour pouvoir penser à un autre genre de démocratie.
Sauf que dans le traité théologico-politique, pardonnez-moi, il montre qu'il est très cultivé en matière historique, il parle des Anglais, il est très contre la révolution, la première révolution très sanglante de 1648 en Angleterre, donc il sait très bien que Élisabeth Ière est morte en 1603, il connaît très bien l'histoire anglaise, comme tout philosophe du politique à cette époque, parce qu'elle est quand même édifiante, l'histoire anglaise, première décapitation d'un roi, etc. Et donc, il sait qu'il y a eu des grandes reines.
Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que Spinoza, quand il parle de l'exclusion des femmes, c'est dans le cadre de la démocratie, c'est-à-dire hommes et femmes gouvernant ensemble. Donc historiquement, il n'y a pas de problème en monarchie. D'ailleurs, Spinoza, même s'il privilégie les mâles dans la monarchie étant héréditaire, que ce soit un homme ou une femme, là, il n'y a pas de contestation du pouvoir, puisque dans ce cas-là, il est institué.
Je comprends la différence.
Il est vrai qu'à l'époque de Spinoza, si on peut penser à Poulain de la Barre, il peut y avoir des pensées bien plus progressistes en la matière. Oui. Ça, je le reconnais volontairement. Mais pour éviter les faux procès, j'essaie de prendre son argumentation, et ce qui me paraît le plus fragile, c'est ce présupposé d'abord qu'il y a moins de force d'âme chez les femmes. On peut encore contester, enfin admettre la faiblesse physique sur certains points, peut-être pas en souplesse, peut-être pas en agilité, mais la question de la force d'âme est problématique parce qu'on ne voit pas exactement ce que pourrait un corps féminin ou ce que pourrait un esprit féminin s'il était parfaitement éduqué. Donc c'est difficile d'en conclure qu'il n'y a pas de force d'âme à égalité chez les hommes et les femmes.
Je vous remercie pour la grande honnêteté de la réponse avec tous les aspects pour à la fois s'indigner peut-être de certaines choses, mais aussi être honnête avec le propos exact de Spinoza. Bernard Potra, qu'est-ce que vous avez ajouté sur cette question des femmes, que ce soit dans l'ordre politique ou dans l'ordre éthico-personnel chez Spinoza?
Quand même, bon, j'ai été frappé. Chantal a fait très bien le tour de la question, de ce texte-là. Bon, on peut dire quand même aussi, on peut ajouter que Spinoza évoque le cas des Amazones et ça pourrait aller contre sa théorie, mais finalement non. Bref, je m'attarde pas là-dessus. La question de la femme qui n'est pas de son propre droit, mais du droit de son mari ou de son père, et il faut voir que c'est une vraie question quand même, ce qui prouve sa véracité ou son importance d'une certaine façon, c'est que ça va demeurer jusqu'au XIXe siècle et même au XXe siècle. J'ai en tête le cas de ce spinoziste, traducteur, etc., que j'ai ressuscité en quelque sorte, Jules Pratt, qui était d'extrême gauche, très à cheval sur Spinoza, si j'ose dire, qui rigolait pas avec Spinoza, et qui, lui, pensait inspiré, donc il a fait une constitution inspirée du traité politique de Spinoza, une constitution démocratique. Lui tendait aussi à exclure les femmes parce qu'elles n'étaient pas de leur droit, mais du droit de leur confesseur. C'est-à-dire que ce qui a duré pendant très très longtemps dans la pensée spinoziste de gauche ou d'extrême gauche, c'est ça. C'est que en fait, au 19e, on dit la femme, c'est soit son mari, soit son confesseur qui va la faire.
Et son père avant.
Qui va lui former l'esprit. Donc, voilà. Alors ça, l'autre question, c'est ce qui était évoqué à la toute fin du texte de Spinoza, là où la mort l'a arrêté. Et le problème, c'est que les hommes vont voir dans la femme un objet de lubricité, disons, un objet de désir, et du coup, ça va tout compliquer. Bon, alors ça, c'est quand même une des données fondamentales, à mon avis, de la pensée de Spinoza sur les femmes. Moi, je me suis intéressé à la question via à la question de l'amour. Je résume, vraiment, je vais très vite, mais bon. Dans l'éthique, Spinoza donne une série d'affects qui font vraiment une série. Et par exemple, l'avarice, c'est le désir immodéré, ou même l'amour des richesses. Et ces cinq affects, ça commence comme ça. C'est le désir, ou même l'amour de la boisson, etc. En queue de liste, il y a la libido. Et la libido, c'est quoi? À la différence des quatre précédents qui sont le désir immodéré ou même l'amour d'eux, là, c'est le désir ou même l'amour de l'union des corps. Immodéré ou pas, c'est pareil. J'ai trouvé ça très bizarre, je me suis demandé ce qui se passait là. Et ça m'a amené évidemment à constater pas mal de choses. J'ai appliqué en quelque sorte la géométrie des affects de la troisième partie de l'éthique sur des cas simples, X, M, Y. Alors déjà, d'une certaine façon, la lecture est biaisée en latin et même en français, parce que c'est toujours aliquis, c'est quelqu'un, hein, et donc c'est au masculin, qui a une chose aimée, rem amatam. Alors le lecteur ne peut pas s'empêcher en quelque sorte de voir mon X mâle et mon Y, la chose aimée, une chose aimée au féminin.
Bon. Vous ne pensez pas que Y peut être un homme également?
Ça pourrait être, mais je pense pas que Spinoza ait eu ça en tête. Mm-hmm. Je pense que son modèle est hétérosexuel. Disons, il n'imagine pas, il ne vise pas l'union homosexuelle, je pense. Hétérosexuel, et alors là vont découler beaucoup de choses. Parce que puisque c'est l'amour, tout simple, le désir du coït, je me suis demandé ce que c'était que le coït, et là, il nous renseigne beaucoup, et c'est le point sur lequel il se passe ceci, que Spinoza, le fameux penseur de la joie, pense que la raison est contre la joie, si la joie est le chatouillement. Et qu'est-ce que c'est que le chatouillement? C'est ce qui se passe quand un corps est affecté par un autre corps, dans une partie, très particulièrement, qui est donc surexcitée, superexcitée, au détriment d'une sorte d'harmonie, d'un équilibre particulier des parties du corps. Bon. Alors, s'il y a quand même une expérience humaine dans laquelle il y a surexcitation de parties, c'est, me semble-t-il, ce qu'il appelle lui-même le coït, coïré, n'est-ce pas? Donc, j'ai suivi cette voie-là. Et on s'aperçoit que si on la suit et si on applique toutes les propositions sur la vie des affects, en quelque sorte, la géométrie des affects, à ce scénario simple, eh bien, on comprend que pour Spinoza, c'est-à-dire pour la raison, les histoires d'amour finissent mal en général, comme dit la chanson. Ça mène, et c'est ce qu'il explique, sans faire de distinction entre un amour qui serait un amour léger, et l'amour fou furieux de la passion, il ne fait pas de différence. Tout ça, ça mène à la maladie, au délire et même à la mort. Bon. C'est quand même assez particulier. Oui. Et donc, juste une phrase, c'est que Spinoza, on le voit comme l'exterminateur des passions tristes, qui ont beaucoup de publicité pour elles. Mais c'est l'exterminateur des passions tout court. Donc, quand l'amour est un affect de passion, alors la raison est là pour le tuer.
Chantal Jacquier.
Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'un amour, quand il est excessif, quand il est une passion, va avoir des effets nocifs. Alors, la question qui se pose, justement, c'est celle du chatouillement, la titillatio dont parle Spinoza, c'est-à-dire quand une partie du corps est affectée au détriment des autres, et là, effectivement, il y a un problème. Et toute la question est de savoir si ce chatouillement qui serait, si on le prend sous la figure du coït ou de l'amour sexuel, si ce chatouillement peut être équilibré et compensé par le développement d'autres parties du corps. Alors, il peut avoir, évidemment, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il peut avoir une fonction tout à fait obsessionnelle, une dimension tout à fait obsessionnelle, mais Spinoza propose aussi un modèle d'équilibre entre, même s'il est plus difficile à observer qu'à concevoir, un modèle de plaisir équilibré où on cultive les différents types de titillation, que ce soit la parure, que ce soit les plantes vertes, que ça soit la musique, le théâtre, et tout ce qui développe les aptitudes du corps. Donc si les plaisirs sont des plaisirs à égalité, Spinoza aura une formule là-dessus, c'est l'hilaritas, l'allégresse, c'est toutes les parties du corps qui sont affectées à égalité, à ce moment-là, on peut les réhabiliter et leur faire place. Donc il ne s'agit pas du tout de lui faire un mauvais procès en pensant qu'au fond, il y aurait des plaisirs qui sont par nature triste, c'est dès lors qu'ils sont excessifs, et toute la question, alors là, c'est effectivement une énigme puisqu'il ne se prononce pas là-dessus, toute la question c'est de savoir si les passions sexuelles sont excessives
par nature
ou si elles ont tendance à le devenir, et si on ne peut pas, les rééquilibrer par le partage d'autres plaisirs, de la bonne chair, de la boisson, des parures, du théâtre, etc. Voilà la question.
Et puis l'idée que les parties excitées dans l'acte sexuel, c'est peut-être un plaisir qui diffuse sur le tout du corps et pas seulement sur les parties. C'est un problème... moi, je trouve ça assez légitime de poser cette question. Mais apparemment, pour Spinoza, ça ne chatouille qu'une partie. On est d'accord.
Oui, mais alors, donc s'y ajoute un certain nombre de choses sur lesquelles, d'ailleurs, on va venir, je pense. C'est que la géométrie de l'amour, il est terrible. X, M, Y... Oui. Il se trouve qu'il y a quelque chose, on va y venir donc, qui s'appelle l'imitation des affects.
Donc, vraiment,
quand un autre qui arrive, Z, lui, il voit que X aime Y. Eh bien, il est porté à imiter ça. Donc, à aimer aussi Y.
C'est par rivalité.
Par imitation.
Et imitation
par
qui
imitation.
Donc une femme très aimée
après,
est extrêmement aimée.
Après, ça va se gâter. Et ça va se gâter nécessairement parce que quand moi je vois X qui non seulement a une chose aimée, Y, mais en est le maître, en jouit, alors moi je veux en jouir aussi.
Et à l'inverse, X est terriblement
affecté
par cette rivalité.
Il y a un truc formidable, c'est que quand on est aimé, on aime en retour. Donc quand Y, elle va se rendre compte que Z, qui vient d'arriver, l'aime aussi, elle va l'aimer en retour. Non, ce sont des géométries terribles. Et tout ça mène à une scène qui est alors manifestement, je dirais, traumatique, pour Spinoza, au moins pour sa pensée. C'est la proposition qui concerne la jalousie, dans le Scoli de laquelle Spinoza, pour une fois, évoque quelque chose de sexuel. C'est le Scoli classé X de l'éthique, c'est-à-dire que celui qui se trouve être trahi, n'est-ce pas, il contemple sa chose aimée qu'il aime toujours avec haine, et il contemple le rival qui est en train de se satisfaire avec haine aussi. Et qu'est-ce qu'il voit là ? Il voit, dit Spinoza, les humeurs qui se mélangent. Ça, c'est quand même assez inhabituel. Il voit la scène. Il voit la scène. Et alors, bon, ces haines veulent dire, sont des désirs de détruire, le rival comblé, désir de détruire la chose aimée, mais comme il l'aime, il veut la conserver, et donc à ce moment-là, il y a flottement d'âme. Tout ça est catastrophique quand même.
Et tout ça repose catastrophique. Sur l'imitation,
et
dont j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est si important.
S'il est fatal qu'il y ait ce type de rivalité, alors l'amour est mal barré. Et en effet, il est totalement mal barré. Et je rappelle, je signale, que dans l'éthique, la raison militante, ne milite pas du tout pour l'amour, jamais, mais pour une amitié générale et pour la concorde.
Chantal Jacquet, sur ce problème de l'imitation avec ses effets boule de neige.
Alors, l'imitation des affects, c'est un principe fondamental chez Spinoza. C'est d'abord l'imitation du semblable. Ça s'enracine dans les corps, les propriétés communes des corps. C'est-à-dire qu'on va être affecté par l'image d'un corps. Et cette image va produire en retour une réaction, un comportement, puisque ça va toucher des parties du corps qui sont identiques à celles du corps du semblable. Et donc, c'est un mécanisme corporel, un mécanisme mental également, donc qui régit les comportements humains. Donc, on va imiter les affects. Mais en soi, l'imitation des affects n'est ni mode ni mauvaise. C'est une nécessité. Hein, et elle peut avoir un double aspect. L'aspect que Bernard a bien développé concernant, par exemple, la question de la jalousie et de l'amour réciproque. Mais elle peut aussi avoir un effet éducatif si on imite les affects de quelqu'un qui vit sous la conduite de la raison ou des affects joyeux qui renforcent la puissance d'agir. Il va y avoir une positivité de cette imitation des affects. Et les enfants, l'éducation des enfants passe par cette imitation des affects. Spontanément, ils vont se mettre à imiter. Et je voudrais signaler sur ce point des affects d'amour qui peuvent venir contrebalancer précisément ce phénomène de la jalousie ou de l'amplification des rivalités. Il y a un affect que Spinoza met en avant qui lui convient avec la raison, c'est la faveur. Et la faveur, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour pour celui qui a fait du bien à autrui. C'est un sentiment très très intéressant parce que...
Très généreux.
Très généreux. Et à la différence de la reconnaissance pour celui qui m'a fait du bien, reconnaissance qui peut toujours être une piperie, une tromperie, dit Spinoza, parce que ça peut être un calcul d'intérêt, je te fais du bien parce que j'escompte du bien de toi, et donc ça peut être un commerce. À la différence de la reconnaissance, la faveur, elle implique une distance par rapport au bienfaiteur, puisque le bienfait ne nous a pas été fait à nous. Elle implique une triangulation du désir, puisque on va aimer quelqu'un qui ne nous a pas fait directement du bien, mais qui en a fait à autrui. Et pourquoi on va l'aimer ? Par le biais de l'imitation des affects, parce qu'on va s'identifier au semblable, et donc ça va renforcer la joie en nous. Donc, en ce sens-là, seul un affect peut contrarier un autre affect, chez Spinoza, et c'est ça qui est essentiel. Effectivement, la raison seule est impuissante. Bernard a raison de dire que la raison ne peut pas vaincre l'amour dans ce qu'il a d'excessif. Néanmoins, chez Spinoza, ce qui est central, c'est bien l'amour. Je dirais l'amour intellectuel de Dieu, qui va prendre, lorsqu'il est décliné sous la forme humaine, l'aspect de l'amitié. On s'efforce de conserver les autres par générosité sous la conduite de la raison. Donc il est vrai qu'il y a plus un plaidoyer chez Spinoza pour l'amitié que pour l'amour-passion ou l'amour sexuel. Si on tempère cet amour par d'autres types d'amour, un affect peut vaincre un autre affect. Mais néanmoins, je dirais quand même que chez Spinoza, on a bien affaire à une philosophie de l'amour, au sens où il s'agit, par la connaissance du troisième genre, d'aimer Dieu ou la nature. Alors on dira que cet amour est loin peut-être des passions humaines. Néanmoins, le corps n'est pas évacué chez Spinoza, puisque qui a un corps apte à un très grand nombre de choses a un esprit dont la plus grande part est éternelle. Donc il y a bien cette corrélation malgré tout qui est maintenue. Et on est obligé de penser aussi des types d'amour corporels qui ne soient pas nécessairement des types d'amour qui nous inciteraient à la jalousie, à la rivalité.
Alors,
en gros, qu'il ne soit pas amour sexuel. Je voudrais juste ajouter une chose
vous en prie,
pour défendre ma position, qui a l'air un peu raide. c'est que à la fin de l'éthique, à propos de l'amour intellectuel de Dieu, d'abord c'est l'amour envers Dieu, puis l'amour intellectuel de Dieu. Spinoza précise que, au fond, c'est le seul qui vaille, parce que, je cite, c'est très important, je cite dans ma traduction, mais elle ne trahit pas, il n'est pas entaché ou souillé des vices de l'amour ordinaire. Et les vices de l'amour ordinaire, il les évoque, c'est que, par exemple, une chose aimée, il ne peut pas imaginer qu'elle puisse se partager. Donc il faut qu'il n'y en ait qu'un qui l'aime et qui la possède. Dieu, c'est formidable. Plus qu'on est d'amoureux, plus qu'on est heureux. C'est très, très différent. Alors là, effectivement, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, mais ça n'a rien à voir.
Et l'amour intellectuel des femmes, ça existe? Est-ce qu'il a correspondu avec des femmes?
Eh bien, on ne sait pas. De choses l'une, ou bien jamais, ou bien les amis et éditeurs ont fait le tri soigneusement. Ils disent qu'ils ont gardé, qu'ils publient les lettres qui ont un intérêt philosophique. Est-ce qu'il y avait autre chose? Peut-être qu'ils n'écrivaient que des lettres philosophiques, Baruch. Qui sait? Mais peut-être aussi qu'il écrivait à sa sœur ou sa cousine ou je ne sais quoi, ou aussi à des mystiques contemporaines de lui, à Amsterdam aussi, comme Antoinette Bourignon, qui s'est beaucoup intéressée à lui. Mais on ne saura jamais.
On n'a rien.
On n'a rien. Non, je pense réellement que le sexe chez lui est barré, est évacué.
Malgré les amours qu'on lui prête.
Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal.
Il y a un amour qu'on lui prête avec la fille, n'est-ce pas? On lui prête un amour avec la fille de son ami qui lui a pris tant de choses.
On n'en sait rien. Oui, moi, ce que j'observe, c'est que les figures de femmes qui apparaissent dans l'éthique, c'est toujours le vieux schème de la courtisane, qui est très mauvaise pour les jeunes gens. C'est le jeune homme qui pleure sur le seuil de l'inconstante. Tout ça, ça remonte loin, à Ovide, tout ça.
Et intellectuellement.
Donc, il y a jamais, on ne voit jamais. Et alors, quant à l'autre texte sur la question, c'est là, tout d'un coup, alors que Spinoza prétend résumer ce qui précède à la fin de la quatrième partie de son éthique. Et il nous bombarde le coup du mariage, et le coup du mariage, c'est pour régler la question. Voilà, on va avoir la paix avec ça. À savoir, un homme et une femme qui déjà vivent sous la conduite de la raison, qui ne se choisissent pas pour la forme, c'est-à-dire forma, c'est la beauté aussi. Donc, juste l'esprit, mu par la liberté de l'esprit, pour faire des petits qu'ils vont, par imitation justement, éduquer exactement de la même manière. Ça semble un peu vaticanesque à mes yeux, tout ça.
Le problème de la force d'âme insuffisante des femmes que vous évoquiez, selon Spinoza, Chantal Jacquet, ce problème a-t-il pour conséquence qu'intellectuellement, elles ne sauraient être des interlocutrices pour Spinoza?
Je ne le pense pas, dans la mesure où, d'abord, nous n'avons aucune trace d'une correspondance ou d'une prise de position à ce sujet de Spinoza. Et par ailleurs, dans le texte qu'évoque Bernard, je nuancerai tout de même dans l'union de... Il parle de l'union de l'homme et de la femme. Alors, c'est donc un type d'union hétérosexuelle, bon, qui est classique à l'époque. Hein, donc, il mentionne qu'il n'a pas seulement pour principe la beauté du corps, mais la force d'âme. Ça veut dire qu'il y a une réserve, c'est tout à fait d'accord avec toi, mais ça veut dire qu'il ne l'exclut pas, puisqu'on ne voit pas comment, si le corps et l'esprit sont une seule et même chose, exprimés de deux manières, on pourrait maintenir quelque chose d'intellectuel sans référent corporel. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la béatitude, chez Spinoza, donc cet amour intellectuel de Dieu, a pour corréla l'allégresse, c'est-à-dire le fait que les parties du corps soient affectées à égalité, parce que même si le corps meurt, et dont l'esprit, l'imagination et la mémoire meurent, il n'empêche que l'esprit reste toujours l'idée d'un corps conçu sous l'aspect de l'éternité. Donc il n'y a pas de séparation par rapport au corps. Et cet amour intellectuel, il est clair que si Spinoza dit que dans l'union d'un homme et d'une femme, s'il n'y a pas seulement un désir charnel, mais le désir alors, d'élever sagement des enfants, on peut trouver que c'est très conformiste, mais bon, à l'époque, on peut le concevoir, de viser la liberté, ça veut dire, la liberté, si on la prend au sens fort, chez Spinoza, c'est le salut, hein, c'est-à-dire c'est l'amour, la liberté, il y a trois synonymes, béatitude et l'amour intellectuel de Dieu. Donc, en ce sens-là, c'est reconnaître, si on admet qu'on peut viser une union où on s'épaule pour la liberté, alors on pourrait dire que le type d'amour que Spinoza peut concevoir envers les femmes, ça ressemblerait plutôt à de l'amitié, c'est-à-dire le fait qu'on va partager le bien, on va renforcer mutuellement la puissance d'agir de chacun. Mais dans ce cas-là, la liberté, c'est précisément cette béatitude et cet amour intellectuel de Dieu. Et cet amour intellectuel de Dieu, si c'est le modèle, pourquoi ? Parce que c'est un amour qui n'est pas monopolistique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Bernard.
D'autant
plus dire que c'est important pour Spinoza que le bien soit communicable. S'il n'est pas communicable, si on a affaire à un bien monopolistique, si on conserve jalousement pour soi une relation exclusive, forcément, ça va dégénérer. En revanche, un bien partageable, et c'est le souci de Spinoza, il faut qu'il soit communicable, et communicable à tous, autant que possible. Il le dit dès le traité de la réforme de l'entendement.
Alors, je sais que pour vous, la notion de Dieu est très simple. Vous l'utilisez dans la vision de Spinoza. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être pas tout à fait clair ce que veut dire Dieu. Donc, il faut tout le temps le rappeler. Dieu, ce n'est pas un Dieu-personne, ce n'est pas une transcendance par rapport à la nature, ce n'est même pas donc un principe transcendant comme dans le déisme traditionnel, c'est la nature elle-même, c'est le tout. On est bien d'accord, hein.
Tout à fait.
Bon, parce que sinon, l'amour, qu'il soit intellectuel ou autre de Dieu, si on ne met pas la
raison pour laquelle
on ne comprend plus rien.
Arnonès substituait dans la fin de la partie 5 de l'éthique amour intellectuel de Dieu, il mettait l'amour intellectuel de la nature.
La nature.
C'était
c'est parfois
lui,
plus simple pour
plus
la compréhension.
Simple. En même temps, c'était une manière pour lui de légitimer ses prémices écologiques, puisque l'amour intellectuel de la nature nous conduit à préserver, à chercher à préserver chaque mode. Parce qu'il faut quand même penser que dans cet amour intellectuel de la nature, toutes les parties de la nature sont concernées. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de dieu abstrait comme une personne transcendante. C'est aussi un amour c'est un amour envers les autres hommes ou les autres individus de la nature. Enfin, tout ce qui constitue la nature naturante, c'est-à-dire le dieu cause, et la nature naturée, c'est-à-dire les effets produits. Donc, en ce sens-là, peut-être que c'est plus intelligible pour un auditeur contemporain de penser qu'il s'agit d'aimer la nature tout entière et de la connaître pour cela, et sans exclusive, c'est-à-dire sans que ce bien soit un bien personnel, puisqu'il est infini, il est communicable, et il n'est pas la propriété d'un seul, quoi.
Alors, je vous propose, allez-y, je vous laisse te répondre parce que c'est très important, au fait,
je voudrais compléter ce que vient de dire Chantal. L'amour intellectuel de la nature, c'est tout à fait exact. Ce qui me fait causer, c'est que quand on entend ça, on voit la nature, on voit les prés, on voit les petits oiseaux, on voit aussi des humains si l'on veut, mais on oublie que la nature, c'est-à-dire Dieu, c'est aussi l'attribut pensée.
C'est la raison aussi.
Donc, c'est l'ensemble des pensées.
Oui,
c'est l'ensemble des idées.
Oui.
Donc, c'est pas seulement les petits oiseaux.
Puis l'infinité des attributs que nous ne connaissons pas.
Donc et plus l'infinité des attributs que nous ne connaissons pas. Mais, c'est-à-dire, ce que je veux éviter, c'est qu'on croit à une espèce de panthéisme comme ça, justement trop écologiste, c'est-à-dire où on verrait les champs, les vaches, etc. Et les continents, hein, tout ce qu'on veut. Mais il y a les continents de pensée, si j'ose dire. Il y a toute la pensée, c'est-à-dire c'est très difficile.
Il y a tous les affects, toutes les lois rationnelles, il y a tout.
Oui.
C'est l'être absolument infini.
Et ce qu'on aime, c'est la divinité de ça.
Bon.
C'est ça qu'on aime.
Entendu. Alors là, vraiment, je vous propose d'avancer, puisque nous avons titré cette émission à partir d'un d'un propos de Spinoza dans la quatrième partie de son Éthique, à l'homme rien de plus utile que l'homme. Je voudrais vraiment qu'on aille dans l'analyse de ce terme, d'autant que vous allez l'entendre, cette phrase est précédée d'une représentation de deux individus joints l'un à l'autre qui composeraient alors un individu deux fois plus puissant que chacun pris séparément. Ça pourrait ressembler à l'amour dans le discours d'Aristophane dans le Banquet de Platon, mais d'après tout ce que vous venez de dire sur l'amour, je ne crois pas que ce soit cela. Donc, qu'est-ce que c'est que se joindre à l'autre pour obtenir un individu deux fois plus puissant? Qu'est-ce que veut dire Spinoza? Écoutez.
Il y a hors de nous bien des choses qui nous sont utiles et auxquelles, pour cette raison, il faut aspirer. Et parmi elles, on en peut excogiter de meilleures que celles qui conviennent entièrement avec notre nature. Si en effet deux individus, par exemple, ayant exactement la même nature, se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun pris séparément. À l'homme, donc, rien de plus utile que l'homme. Il n'est rien, dis-je, que les hommes puissent souhaiter de mieux pour conserver leur être que de se convenir tous en tout, de sorte que les esprits et les corps de tous composent, pour ainsi dire, un seul esprit et un seul corps, de s'efforcer tous ensemble de conserver leur être autant qu'ils peuvent et de chercher tous ensemble et chacun pour soi l'utile qui est commun à tous. D'où suit que les hommes que gouverne la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent leur utile sous la conduite de la raison, n'aspirent pour eux-mêmes à rien qu'ils ne désirent pour tous les autres hommes. Et par suite, ils sont justes, de bonne foi et honnêtes.
Merci Nicolas Berger, notre réalisateur, pour toutes ces lectures de Spinoza cette semaine. Dans le texte que nous venons d'entendre, Chantal Jacquet, je trouve qu'il y a une troublante représentation fusionnelle du lien d'utilité de l'homme à l'homme ou de l'individu à l'individu. Est-ce que c'est toujours comme ça chez Spinoza? C'est-à-dire que, oui, c'est une agglomération de corps. Lorsque les corps sont utiles les uns aux autres, et encore une fois, je crois comprendre que pour la sexualité, c'est pas son exemple favori. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre là ce qui se joue dans ce texte?
Il n'y a ni fusion ni agglomération, mais composition. Et composer, ça signifie donc former un corps nouveau. Lorsque les parties s'assemblent, et composer, on peut le prendre en français aussi, comme composer avec les autres, c'est s'accorder avec eux. Et cette composition de corps, elle est tout à fait concevable d'un point de vue ontologique, parce qu'un individu, chez Spinoza, c'est déjà un corps composé. Il est composé de parties qui sont unies. Donc ce mouvement de composition des hommes entre eux n'est que le prolongement des mouvements de composition de tous les corps dans la nature, puisqu'un individu, alors individu c'est pas individu humain, ça peut être tous les individus de la nature, ça désigne chez Spinoza tous les corps composés. Alors cette composition-là, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas fondée simplement sur une similitude, mais elle est fondée sur une convenance en nature. Alors, la distinction est importante, même si on peut passer du semblable au convenable. Pour qu'il y ait convenance, il faut qu'il y ait un accord en nature. Et ce qui est tout à fait remarquable chez Spinoza, c'est que les hommes ne s'accordent véritablement en nature que lorsqu'ils vivent sous la conduite de la raison. Là, il s'accorde en tout point. Et il faut noter que dans le texte, il dit « rien de plus utile à l'homme qu'à un autre homme, mais à condition qu'on convienne entièrement avec notre nature. » Et on ne convient entièrement en nature que lorsque l'on vit sous la conduite de la raison. Quand on est mu par les passions, on discorde. Quand on est mu par des affects tristes, eh bien nécessairement, l'homme ne sera pas le plus utile à l'homme. Les hommes seront ennemis par nature, dit Spinoza, dans le traité politique, précisément parce qu'ils ont le pouvoir de se détruire les uns les autres lorsqu'ils sont mus par des affects de haine. Donc, lorsque Spinoza dit que l'homme peut être ce qui est plus utile à l'homme, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne voit que la sociabilité des hommes, puisque ils peuvent être aussi nuisibles les uns aux autres. Donc, l'homme peut être à la fois un loup pour l'homme, si on reprend la formule de Hobbes, et Spinoza dira, il peut être aussi un dieu pour l'homme, mais un dieu pour l'homme à condition de vivre sous la condition de la raison. Alors, pourquoi ça permet une composition qui n'est pas une fusion, une destruction? Mais parce que on va partager des idées adéquates. On va partager un bien commun et en ce sens-là, eh bien, il n'y aura pas de discorde dans le partage du vrai. On peut donc former un autre corps où on se renforce mutuellement par la communication du bien, par la communication des idées adéquates. Et donc, on va viser son utile propre, mais en visant son utile propre, on vise aussi l'utile commun, puisque à ce moment-là, on mobilise, quand on vit sous la conduite de la raison, on mobilise les notions communes, c'est-à-dire les propriétés par lesquelles tous les corps conviennent. Alors, il y a une différence tout de même entre convenir et convenir en nature, et quand Spinoza dit « rien n'est plus utile à l'homme que l'homme », c'est parce que seule la convenance en nature peut se faire avec des hommes, avec les animaux on peut avoir des propriétés communes, mais pas une convenance en nature complète. C'est la raison pour laquelle Spinoza va privilégier la concorde entre hommes, va privilégier donc la recherche de l'utile entre les hommes, ça ne veut pas dire qu'il va détruire les animaux, mais qu'on peut en faire un usage, on peut les conserver ou les détruire à notre guise.
Bernard Potrin, sur ce sujet, notamment, je suis étonnée du fait que si on passe dans l'ordre de la raison, alors toute la discorde est censée disparaître, mais peut-être que j'exagère, mais j'ai eu l'impression que Chantal Jacquet allait dans cette direction. Cela veut-il dire que si nous discutons rationnellement, il n'y aura plus de conflit? La raison ne nous est-elle pas aussi à produire du désaccord?
Non, je ne crois pas que la raison puisse produire du désaccord. Je voulais revenir un peu sur ce que Chantal a dit, pour compléter,
oui.
Donc pour qu'on comprenne bien cette histoire d'individu, dès lors que, par exemple, deux personnes humaines concourent à un même effet, elles font individu, n'est-ce pas? Donc par exemple, vous avez un chemin, sur ce chemin, il y a un rocher. Nous sommes deux. J'ai essayé seul, j'y arrive pas. Lui, l'autre, il a essayé seul, il n'y arrivait pas. On s'est rencontrés. À deux, on va y arriver. Pourquoi? Parce que nous convenons au moins en nature, en ceci, que le deuxième, c'est pas mon chien. Mon chien, il m'aiderait pas. C'est un homme. Et à deux, nous avons, comme le disait le texte, plus de puissance. Bien. Alors, c'est très encourageant. En effet, l'homme est très utile à l'homme. Ce qu'il faut ajouter, c'est l'homme qui vit sous la conduite de la raison. Alors là, évidemment, si nous sommes deux à vivre sous la conduite de la raison, nous concourons au même effet. C'est-à-dire un type de coexistence humaine qui est très particulier. Nous allons former une communauté d'hommes qui vivent sous la conduite de la raison et qui, de ce fait, vivront dans la concorde.
Oui.
Parce que Spinoza, après avoir énuméré et fait un catalogue de tous les affects, dans la troisième partie de l'éthique, dans la quatrième, fait le tri, c'est-à-dire la raison fait le tri. Et chaque fois, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est bon pour la concorde. Ça, c'est bon pour la concorde. Ça, c'est mauvais pour la concorde. Par exemple, l'amour est mauvais pour la concorde. Etc., etc. Et là, on est arrivé, à une pacification dans la coexistence, c'est absolument évident. Pourquoi? L'homme qui vit sous la conduite de la raison, il sait ce qui est bon. Qu'est-ce que c'est qui est bon pour la raison? Pour éviter de dire pour Spinoza. Par bon, il faut entendre ce que nous savons avec certitude, nous être utiles. C'est-à-dire, nous cherchons tous le même utile, et c'est ça qui est bon.
Et ce sera consensuel.
C'est cet utile-là qui est bon.
Et c'est consensuel, on est d'accord.
Ah ben forcément. Alors, forcément, une fois qu'on a fait un petit noyau comme ça, une petite communauté d'intelligents, puisque ça revient, ça, le problème, c'est que nous sommes dans une société, ça vaut pour tous les temps et, toutes les sociétés, de stultis, de gens qui vivent sous l'affect.
Donc des sots, des fous, stultis.
Comment, qui ne vivent pas sous la conduite de la raison.
Des fous et des sots, c'est
voilà,
ça, stultis.
C'est ça.
Hein.
Alors, comment on peut organiser une société? Pour ça, il faut une constitution. Et une constitution, mais on n'en est pas là. Et donc, par exemple, moi, homme qui vit sous la conduite de la raison, c'est pas vrai d'ailleurs, je parle... donc,
vous parlez le spinozien.
Voilà. Je me trouve dans une société régie par un certain pouvoir, imperium, qui a édicté une loi que, moi, je trouve parfaitement stupide, injuste, etc. Eh bien, dit Spinoza, la raison commande d'obéir à cette loi.
Oui. Quitte à la commenter librement et
oui,
de manière critique,
ensuite,
mais d'obéir.
Il faut arriver, oui, à, il faut militer en quelque, oui, sorte. Il faut arriver à convaincre de plus en plus de gens de la stupidité ou de la nocivité de cette loi. Mais de ce point de vue-là, Spinoza est contre. Il a peur de la foule. Il l'a écrit. Il a peur de l'anarchie. Et mieux vaut un état civil, même malfaisant d'une certaine façon, plutôt que pas d'état civil du tout. Or, ce qu'il craint, c'est en effet les choses nouvelles, c'est-à-dire la révolution. Donc, l'homme intelligent obéit quand même.
Alors, j'aimerais comprendre, dans la concorde, qui est donc le dépassement, si j'entends bien, des affects qui nous divisent, jusqu'à quel point cette concorde, qui est fondée sur la raison, imaginons un monde idéal où la raison triomphe en chacun de nous, y aurait-il encore du multiple? Car politiquement, c'est assez important le multiple. Il y a quand même beaucoup de gens en philosophie politique qui nous disent que même la rationalité et la délibération la plus rationnelle possible n'empêchera pas la pluralité. Et c'est peut-être d'ailleurs tout à fait heureux que ce soit ainsi. Mais qu'en dit Spinoza, Chantal Jacquet?
Alors d'abord, il considère que dans les délibérations, où il y a des divergences, on cherche une solution à un problème. Ce qui est assez intéressant, c'est l'idée que personne n'a nécessairement raison d'avance et que parfois, dans les délibérations, les esprits s'aiguisent, s'affinent, de grossiers, ils deviennent un peu plus fins et trouvent des solutions auxquelles personne n'avait pensé auparavant et sur lesquels ils tombent d'accord. Oui. Donc il y a quand même ce mouvement de la délibération qui fait place à la pluralité des idées, au frottement, on pourrait dire, des différences, frottement qui ne va pas jusqu'à la divergence, puisque on est mu par ce désir de trouver tout de même une solution. Donc il y a de toute façon du multiple. Et je voudrais préciser, parce que le texte que vous citez, c'est le texte de l'éthique, où, oui, la concorde est le fruit des hommes qui conviennent en nature sous la conduite de la raison. Dans le traité politique, Spinoza analyse d'autres types de compositions de corps parce qu'il dit on ne va pas caresser l'illusion que tous les hommes pourront vivre tout le temps exclusivement sous la conduite de la raison. Donc il y a un principe de réalité qui fait que Spinoza conçoit des compositions de corps sur la base d'affects communs. C'est dans le chapitre 6 au paragraphe 1 du traité politique où il dit les hommes aiment mieux se laisser conduire par les affects que par la raison, donc on ne peut pas les faire vivre exclusivement sous la conduite de la raison, il dit il faut qu'il y ait un affect commun. Et quels sont ces affects communs? Eh bien, il met en avant une crainte commune, la crainte de la solitude, d'être obligé de se débrouiller tout seul, faire face à tous les dangers, et puis l'espoir et le désir frustré de venger un tort subi en commun. Donc il y a trois affects là qui sont plutôt des affects passifs, qui sont mis en avant pour produire quelque chose qui ressemble à de la concorde. On va composer, on va former un corps, on va s'unir, s'assembler, sur la base d'affects. Donc tout le problème, c'est de savoir comment faire évoluer ces affects, lorsque ces affects sont des affects simplement basés sur la crainte, donc quelque chose qui est une forme de tristesse qui diminue la puissance d'agir, qui en même temps conjure aussi cette faiblesse, hein, puisque si on s'unit sous la base de la crainte, si on respecte les lois sur la base de la crainte, il y a quand même un État qui va nous protéger. Le problème pour Spinoza, c'est de savoir comment, au fond, on passe à une multitude serve qui est conduite plutôt par la crainte, à une multitude libre qui est conduite plutôt par l'espoir. Et donc, c'est tout la trajectoire dans le traité politique d'un État qui gouverne à bon droit, qui utilise les affects, et puis d'un État qui gouverne pour le mieux et qui va gouverner sous la conduite de la raison. Donc, c'est ce mouvement de passage qui est à envisager chez Spinoza, on pourrait dire d'une concorde affective qui est fragile, parce qu'évidemment, la crainte peut se commuer en espoir, elle peut se commuer en superstition. Une concorde fragile à une concorde qui serait solide, fondée sous la conduite de la raison. Donc, il y a quand même un principe de réalité. La composition des corps se fait d'abord sur la base des affects.
Il ne nous reste que deux minutes. Je vous les donne, Bernard Potrat, pour dire ce que vous pensez cette question qui vient d'être évoquée de la concorde, peut-être, ou sur d'autres choses, comme vous voulez.
Oui, je veux enchaîner sur ce moment de naissance de la société organisée, de l'État civil. C'est vrai que ça se fait sous la menace. C'est-à-dire qu'il y a une instance qui dit « ça sera comme ça » et pas autrement. Et si c'est autrement, alors on va punir. C'est donc très important. Donc, apparemment, en effet, ça diminue la puissance d'agir des individus concernés qui sont en train de s'organiser. Mais c'est en effet largement compensé par le fait que ça satisfait le désir fondamental qui est le désir de persévérer dans son être. C'est-à-dire que dans l'état de nature, on peut s'entraider à pousser le rocher et à dégager le chemin, mais ensuite, le plus fort va vouloir tout. Et il va dire « ça, c'est à moi ». Oui, c'est à moi parce que moi je suis le plus fort. Et donc, il peut me tuer. À ce moment-là, effectivement, je préfère qu'on me dise ça sera comme ça, et il faut que ça soit comme ça. Si tu désobéis, tu seras puni, mais au moins tu vas vivre. Tu vas vivre. Et ensuite, il s'agit d'améliorer tout ça. Et quant à la variété ou la diversité, je confirme ce que disait Chantal, à savoir qu'en effet, c'est pas pour rien. Que à chaque fois qu'il a conçu avec une minutie incroyable, Spinoza, des constitutions, les trois qui sont complètes, à chaque fois, ce qui est important, c'est l'existence de conseils. Et un conseil, c'est justement l'existence même du multiple, de la variété. Et c'est là-dedans que c'est dans ce cadre-là, selon le mécanisme qu'a évoqué Chantal, d'intelligence progressive, oui, qu'on pourra s'approcher le plus possible de l'intérêt de tous. Parce que dans chaque cas, c'est l'intérêt de tous qui doit être visé. Et donc, j'en profite aussi pour dire que Spinoza évoque le fait que pour lui, la meilleure constitution n'est pas forcément la démocratique. C'est sur ce
point. Ça nous emmènerait très loin. Mais merci d'ouvrir ainsi la question politique chez Spinoza.
C'était bien sûr Les uns contre les autres, interprété par Fabienne Thibault, cette chanson de l'opéra rock franco-québécois de 1979, Starmania, composée par Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon. Merci beaucoup Chantal Jacquet, Bernard Potras, une magnifique émission. Merci à tous les deux, vraiment. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique du jeudi qui s'appelle Le Fil Philo. En ce moment, elle est proposée par Laurence de Villers qui aujourd'hui réfléchit à ce comportement qu'on appelle la procrastination, le fait de toujours reporter à plus tard ce que l'on est censé faire. Écoutez.
Le fil philo.
Vous n'arrivez pas à vous y mettre ? Hannah Arendt vous donne le secret pour éviter la procrastination. L'ordinateur est là, face à vous. Il suffirait de 3x rien pour ouvrir le fichier et vous lancer écrire enfin ce compte-rendu que vous deviez déjà rendre il y a 2 semaines. Cela semble si facile à portée de main et pourtant, vous n'ouvrez pas le fichier. À la place, vous prononcez cette phrase qui semble magique. Je le ferai demain. Vous vous sentez à la fois un peu honteux et soulagé, car la procrastination, le fait de remettre à plus tard, est toujours en même temps un soulagement et une torture. Un soulagement parce que le délai ainsi octroyé vous donne le sentiment, illusoire certes, mais sur le moment tellement réconfortant qu'un espace infini vient de s'ouvrir devant vous. Demain paraît très loin et comme ne devant jamais venir. Et pourtant, cette tâche que vous avez repoussée continue à vous obséder. Car le procrastinateur ne connaît ni le travail, ni le repos. Il est hanté par le travail qui reste à faire et le repos qui n'est pas permis. En réalité, ce n'est pas être ou ne pas être qui tourmente Hamlet, c'est faire ou ne pas faire. Telle est la question. Hannah Arendt, la grande philosophe du XXe siècle, née en Allemagne, d'origine juive, exilée en France puis aux États-Unis, explore ce que signifie cette capacité d'agir. C'est cette force qui nous sauve de l'endormissement, de la routine et de la mort. Oui, de la mort, parce qu'agir, c'est commencer quelque chose, c'est faire advenir du nouveau, même dans la plus modeste des tâches, comme ouvrir ce maudit fichier. Cette faculté de commencer du neuf, dit Arendt, est là pour nous rappeler constamment que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Toute action, selon Hannah Arendt, est ainsi comme un miracle. C'est le mot qu'elle emploie dans son ouvrage « La condition de l'homme moderne », publié pour la première fois en 1958. Un miracle, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, une manière de lutter contre l'ennui et la routine. Agir, c'est faire un miracle, c'est faire naître quelque chose. Car, ajoute Arendt, la natalité n'est pas seulement donner naissance à un nouveau-né, c'est donner naissance à la nouveauté. Ouvrir ce fameux fichier, réfléchir, écrire, finir, partager. Ce pouvoir de commencer est la seule chose, selon Hannah Arendt, qui donne, je la cite, aux affaires humaines de la foi et de l'espérance. De bien grands mots pour de petites actions, me direz-vous. Après tout, ouvrir ce fichier, c'est quand même pas sauver le monde. Eh bien si, c'est précisément le cas. Agir, même de la manière la plus humble qui soit, c'est ne pas laisser les choses en l'état. C'est refuser le retour du même, la répétition, la paralysie. C'est ajouter du frais, du neuf dans le monde. C'est plus fondamentalement encore croire au monde. Croire à ce que nous faisons, à ce que nous bâtissons ensemble, vous et moi, par chacune de nos actions. C'est cette foi complètement philosophique et non religieuse qui fait se dire qu'il vaut toujours mieux agir que ne rien faire. Que l'avenir n'est pas autre chose que ce que nous en faisons et que demain n'attend pas.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Julien Moulet. Elle a été préparée en particulier... Je me suis trompée, non ? Il me regarde bizarrement tous. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Felpin, Carla Michel, bien sûr, je viens de le dire, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet, vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité !